j'ai été interpellée à la fois par les parcours qui étaient extrêmement difficiles pour certains, pas tous, mais la plupart, c'était quand même des gens qui avaient subi la guerre, la violence, des fois qui avaient mis des mois, voire plus, des années avant d'arriver en France et d'avoir un statut de réfugié, une protection.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parole, un magazine consacré aujourd'hui au livre de Sylvie Gouval, « Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo, réfugié, chemin de vie », paru chez Zoner Éditions. Nous l'avons rencontrée chez elle et nous lui avons demandé eh bien, quelle avait été la genèse de ce livre, « Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo ».
L'idée que j'avais au départ, c'est que je travaillais depuis quand même pas mal d'années avec du public, entre autres migrants ou réfugiés. Par ailleurs, j'avais des activités associatives plutôt du côté des Tibétains, et donc des personnes qui sont pour leur énorme majorité réfugiées. Et donc j'étais quand même très interpellée par les histoires de ces personnes-là, qui sont toutes différentes, évidemment, on ne peut pas généraliser, c'est des pays, des parcours, des âges différents. Et puis en parallèle, la force de ces personnes, ce qu'ils arrivaient quand même à dégager de toutes ces expériences. Alors c'est pareil, on ne va pas faire de l'angélisme, mais notamment la gentillesse de ces personnes dans le cadre professionnel ou associatif, qui était très à l'écoute, qui était toujours en train de proposer des choses, de pas se plaindre pour la majorité, et j'avais envie d'en faire quelque chose. Quand j'ai arrêté ma vie professionnelle, je me suis dit, c'est le moment d'essayer de les recontacter, pas tous, mais ceux qui voudront bien répondre aux questions, parce que c'est pas évident de reparler de son parcours, de le voir écrit, il y a des gens qui ont refusé, et je comprends très bien. Et c'était pour à la fois garder une trace de leur parcours, de ces personnes, et puis montrer aussi, on va dire, au grand public, leur montrer que c'est des personnes qui ne sont pas venues ici par hasard, qui sont venues ici parce qu'ils n'avaient pas le choix, et puis qu'ils ont une volonté de s'intégrer qui est extrêmement forte. C'est des gens qui, pour la plupart, ne pourront pas retourner dans leur pays. De toute façon, tant qu'ils ont le statut de réfugié, c'est interdit par la loi française, et qui ont des enfants ici, voire des petits-enfants pour certains, donc ils savent qu'ils vont rester ici et qui ont vraiment envie de travailler, de s'intégrer, de s'entendre avec leurs voisins. Pour la très grosse majorité, ce n'est pas des gens qui posent problème, contrairement à ce qu'on peut entendre de certaines sources, on va dire, voilà, sans les citer.
Alors c'est un livre qui est composé de 25 témoignages, oui, sur lequel vous avez fait un travail conséquent, puisque chaque témoignage, c'est une, deux ou trois rencontres avec les personnes, c'est entre une heure et demie et trois heures d'entretien. Donc c'est une compilation de paroles qui est extrêmement importante.
Oui, au minimum, il y avait effectivement un entretien jusqu'à trois. Et comme je vous le disais, c'était pour la plupart des personnes que je connaissais déjà. Donc il y avait déjà eu d'autres rencontres avant, d'autres témoignages, d'autres récits. Quelle que soit la connaissance que j'avais de leur histoire, de leur parcours, au départ j'avais préparé un questionnaire, mais ça a été beaucoup plus de la conversation, de l'échange, de la rencontre. C'était quand même pas trop formel, parce que je me disais que ça allait bloquer les personnes aussi, si on était là, question 1, question 2, voilà. J'ai laissé venir, et puis quand il y avait des précisions à demander ou retourner sur quelque chose qu'ils avaient dit et qui me semblait pas très clair après, je retournais les voir ou je téléphonais à minima et je leur disais « Mais tiens, t'as dit ça, est-ce que vraiment c'était ça ?» Alors parfois les gens confirmaient, parfois ils me disaient « Ah ben oui, mais là j'ai mélangé un petit peu, voilà. » Et puis comme je l'explique dans le livre aussi, il y a des personnes où les récits manquent de précision, on va dire, pas sur ce qu'ils ont vécu, mais sur par exemple la chronologie, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas. Je pense aux jeunes érythréennes qui ont quitté leur pays à pied, qui sont arrivées en Éthiopie, puis après ils ont été dans d'autres pays. Elles me disaient, mais on ne savait pas où on était. On se retrouvait, on nous faisait marcher de nuit, on nous mettait dans un abri. On ne savait pas. Et c'est souvent aussi ce qu'on leur reproche quand ils font leur demande à l'OFPRA, donc l'Office de protection pour les réfugiés et apatrides. On dit, ah oui, mais là, vous ne précisez pas bien la date, ce n'est pas clair. Mais oui, mais nous, si on nous demande 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, ce qu'on a fait au mois de juillet. Et puis ces gens-là, pour une grosse majorité aussi, ont eu affaire à des passeurs. Et les passeurs ne disaient pas tout. Ils leur disaient, vous montez dans la voiture, on traverse le désert, on va ci, on va là. Courez, courez, courez. Voilà, on sait ce qu'on nous disait, mais sans trop avoir le contrôle sur ce qui se passait, quoi.
25 témoignages, et je crois que c'est important de retenir ce mot, et vous l'expliquez au début de votre livre, vous n'avez pas fait de vérification, d'enquête sociologique, vous avez recueilli la parole des personnes que vous avez rencontrées et dont vous avez transmis les mots à travers ce livre.
Oui, tout à fait, parce que déjà, comme je lis dans le livre, c'est impossible de vérifier. Et puis, les personnes, il y a quand même beaucoup d'émotions quand on s'est rencontrés avec les personnes. Il y a eu des moments, les personnes pleuraient, quoi, en se rappelant des choses où elles s'arrêtaient. Et là, je me disais, bon, on va les laisser tranquilles, c'est pas la peine de les harceler. Elles me disent ce qu'elles veulent. Parce qu'il y a des choses qu'elles ne veulent pas dire. Par exemple, il y a une jeune érythréenne qui me dit souvent qu'on était dans un abri, il y avait des passeurs, ils venaient chercher des filles la nuit. Moi, heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Voilà, peut-être c'est arrivé, je ne sais pas. Mais à la limite, ça ne me regarde pas. Les gens me confient ce qu'ils veulent aussi, ils ne disent pas forcément tout. Moi, je suis partie du principe que je leur faisais confiance.
Votre livre aussi démarre par des explications, parce qu'on a aussi besoin de comprendre quelle est la législation autour du droit d'asile. Elle est extrêmement complexe, et vous la clarifiez, il y a une multitude de couches ou de situations qui touchent ces réfugiés.
Oui, ça me semblait important qu'il y ait une partie qui doit faire à peu près une trentaine de pages pour expliquer ou rappeler ce que c'est que le droit d'asile. Parce que c'est vrai que dans les discours ambiants, les gens ne savent pas, tout simplement. Quand j'en ai parlé à mes proches sur mon projet de bouquin, sur ce que j'allais faire, je me suis aperçue que même des gens qui ont plutôt des opinions favorables, ils ne savaient pas du tout. Ils me disaient « Ah bon, mais réfugiés, comment ça se passe ?» Quand on est militant, quand on est dans les associations, ça paraît évident. Mais sinon, on ne sait pas trop. Et ça me semblait important de rappeler que non seulement le droit d'asile, c'est la Convention de Genève de 1951, donc c'est le droit international, c'est pas simplement un passe-droit ou quelque chose qu'on donnerait un petit peu comme ça, selon la tête du client. C'était quand même bien, et les gens qui ont lu le livre m'ont dit on est quand même content d'avoir lu cette partie-là, parce que ça nous a clarifié vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Parce que le grand public, et c'est normal, mélange tout, entre les clandestins, sans-papiers, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, qu'est-ce que c'est tout ça, quoi. Donc c'est quand même bien de savoir que c'est une catégorie très particulière de migrants, et pourquoi ils sont venus là aussi, quoi. Voilà, qu'est-ce qui fait que la France, comme d'autres pays dans le monde, beaucoup de pays dans le monde, leur accordent le statut de réfugiés.
Cette partie est importante pour comprendre les choses et elle est aussi importante pour enlever les préjugés qu'on peut avoir tous dans sa tête parce qu'on n'est pas forcément au fait de la législation.
Tout à fait, notamment ce qu'on entend fréquemment, on va dire, sur le fait que les migrants viennent en France pour toucher des allocations, etc. Il faut savoir, comme je le dis dans le livre, ce que les gens, souvent, ne savent pas qu'ils vont arriver en France ou ne choisissent pas au départ. Après, ils peuvent venir en France parce qu'ils ont de la famille, il y a une communauté qui existe. Mais la plupart du temps, quand ils partent, c'est parce qu'il y a la guerre. Par exemple, les Syriens, ils ne se posent pas de la question de se dire, tiens, mais si je viens en France, comme on a des enfants, on aura des allocations familiales. C'est pas du tout ça. Et ça, je pense que c'est important de le préciser parce que toutes les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, c'est des personnes qui sont venues parce qu'ils étaient en réel danger. C'était pas, économiquement c'est difficile, on va venir, on va tenter notre chance, c'est autre chose.
Et pour avoir ce statut, ou en tout cas pour avancer dans l'intégration en France, il y a deux éléments importants dont vous parlez plusieurs fois, c'est parler la langue et passer l'examen.
Ça, c'est pour la naturalisation. C'est vrai que les personnes souvent qui ont le statut de réfugié, pas toutes, mais la plupart quand même, pensent en tout cas demander la naturalisation, parce que comme je le disais, ils savent qu'ils ne pourront pas retourner dans leur pays. Et les personnes qui savent qu'ils vont rester en France, dont les enfants sont en France, se disent que la naturalisation, ça va leur apporter une protection supplémentaire. Pour le moment, les personnes obtiennent des renouvellements de leur carte de réfugié. Je pense à la personne dans le livre qui est d'origine chilienne, qui est là, elle a 75 ans, donc ça fait un moment qu'elle est là. On peut imaginer, c'est pas de la science-fiction, qu'à un moment donné, on lui dise, écoutez, madame, il n'y a plus de danger au Chili, vous n'avez qu'à retourner d'où vous venez. Donc, pour avoir la naturalisation, il faut effectivement, c'est très très compliqué, et il faut qu'ils aient le niveau B1, effectivement. Et là, la législation s'est vraiment durcie ces dernières années, parce qu'au départ, il fallait simplement qu'ils sachent parler, ce qui est normal. Après, il fallait le B1 oral et écrit. Et maintenant, j'ai des anciens stagiaires qui m'ont dit, ça vient encore de changer. Il faut avoir le B1, donc c'est un niveau vraiment de français très courant, écrit oral, mais en plus avoir une certaine note en deçà de laquelle la demande ne sera pas recevable. On se dit quand même, moi je me rappelle d'un monsieur soudanais que j'avais reçu qui voulait essayer de demander la naturalisation, qui parlait parfaitement, comme vous et moi, qui avait un CDI, qui travaillait depuis des années, il était marié en France et tout, mais il se trouve qu'au Soudan, il n'avait pas été à l'école, qu'il ne savait pas lire et écrire. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, simplement, parce que, voilà, comme il faut savoir écrire couramment, ce monsieur, je ne vois pas comment il pourrait y arriver, même s'il bossait très dur, c'est pas possible. Donc voilà, les conditions sont durcies, il faut avoir aussi des connaissances sur le fonctionnement de la République, montrer qu'on a des comportements qui sont adaptés à la société française, ça paraît normal, quoi. Mais l'épreuve de la langue, elle est normale aussi, mais il y a quand même, ça s'est durci, et est-ce que si on le faisait passer à tous les Français de souche, ce fameux examen, est-ce qu'il réussirait? Je suis pas sûre.
On va pas pouvoir faire le tour de toutes les personnes que vous avez rencontrées, tous les témoignages, mais je vous propose d'en voir quelques-unes. Mm-hmm. Et ça nous permet à la fois de découvrir qui elles sont, mais aussi d'approfondir quelques points. Je vous propose de commencer par la Syrie, avec mm-hmm. Wael, qui est journaliste. Mm-hmm. Et là, on peut très bien voir comment un réfugié va être complètement déclassé par rapport à ses compétences professionnelles dans le pays qu'il accueille.
Mais ce monsieur, c'est lui qui m'a inspiré le titre du livre, parce que la première fois que je l'avais rencontré, il m'avait dit « Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo », et ça m'avait vraiment touché, parce que c'est un monsieur qui est d'une gentillesse et d'un calme, qui est quand même assez, on va dire, déstabilisé encore maintenant. Pourtant, il arrive en 2015, ça va bientôt faire 10 ans. Sa femme, c'est souvent les épouses, je ne sais pas pour quelle raison, il y a peut-être eu des études psychologiques là-dessus. Les épouses, souvent, apprennent beaucoup plus que les maris, ce qui n'est pas évident d'ailleurs après, parce que bon, c'est le père de famille et il a encore du mal, on se comprend, mais il cherche ses mots. Et lui, il avait une position sociale qui était quand même assez importante. Et quand il est parti en catastrophe, on va dire, il s'est retrouvé en France. Alors lui, il a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir venir avec sa famille. Il est venu directement, c'est le HCR qui a été repéré quelques familles avec des enfants ou des personnes âgées ou des personnes handicapées et qui les a fait venir en France en avion directement. Donc ils n'ont pas eu à parcourir toute cette galère dangereuse. Donc lui, c'est un monsieur qui a fait des cours de français, sa femme aussi. Il a quand même des gros problèmes de santé, suite notamment à la torture qu'il a eue dans les prisons syriennes. Il a la reconnaissance travailleur handicapé, donc lui, il veut travailler, mais c'est difficile. Bon, quand je l'ai vu pour les interviews, pour le livre, lui, il me disait qu'il aimerait bien travailler auprès de personnes handicapées, comme auxiliaire de vie ou autre. Mais bon, c'est difficile physiquement, c'est difficile de se faire comprendre. Alors que sa femme était en train de préparer un diplôme de la petite enfance, elle n'aura pas de problème d'intégration. Si ce n'est la question du foulard, ça c'est un autre problème. Mais si elle travaille à son domicile ou chez des gens, il n'y aura pas de souci. Leurs 5 enfants travaillent extrêmement bien à l'école. C'est des enfants brillants qui parlent couramment le français sans accent. Vraiment, ils sont dans les premiers de la classe et ils ont été très très rapidement dans les premiers de la classe. Donc ça, c'est quand même une belle intégration. Et puis c'est un monsieur qui est dans des associations, qui aide les autres Syriens, enfin, qui fait beaucoup de choses et qui a jamais jamais eu l'ombre d'un problème au niveau législation ou autre, quoi. Mais c'est compliqué quand même pour lui.
Si on prend un autre exemple tiré de votre livre, Aya, syrienne aussi, avocate, donc un niveau intellectuel et d'intégration dans son pays très fort, et en France, elle se retrouve SDF, autre cas de figure.
C'est effectivement un exemple complètement différent, parce que moi je l'avais connue à Chambéry, dans le centre de formation où je travaillais, et quand j'ai voulu la recontacter, elle m'a dit: Ah, mais je suis à Paris. Et je dis: Bon, moi je vais régulièrement à Paris, donc on s'est donné rendez-vous. Et là, c'est vrai, quand elle m'a raconté où elle en était, j'étais sidérée. Je me dis: Oui, mais c'est pas grave, je suis heureuse, j'aime les grandes villes, moi j'avais l'habitude des grandes villes en Syrie. Et je pense qu'elle n'est pas heureuse du tout. Elle était très souriante, elle était... Bon, elle me disait: Non, mais ça va. Mais... Et elle me disait: Mais il faut absolument que j'apprenne la langue. On parlait en anglais pratiquement tout le temps parce qu'en français, ça n'allait pas du tout. Elle me dit: Bon, je pourrais peut-être reprendre un poste d'assistante juridique. Sans être avocate, je peux peut-être préparer des dossiers. Et moi, j'étais très, très inquiète pour elle parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Entre le moment où je l'ai rencontrée à Chambéry ou celui où je l'ai revue à Paris, elle avait quasiment oublié tout le français. Et ça, c'est une problématique. J'en avais parlé avec le psychologue Monsieur Yayaoui, qui disait qu'il y avait effectivement des gens. Tous les cas sont différents et il y avait des personnes qui avaient vraiment des blocages. Ça peut se comprendre aussi, parce qu'elle, c'est une femme qui défendait notamment beaucoup les Kurdes, les prisonniers kurdes, qui étaient menacés. Bon, son papa, des années en arrière, a été emprisonné des années aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelqu'un d'intelligent, elle est, enfin, cultivée, elle est avocate. C'est pas une question de manque d'éducation, mais il y a un blocage quelque part qui fait que la langue française, ça rentre pas. Et puis l'intégration, je ne sais pas où elle en est. Je l'ai pas eu directement au téléphone depuis quelques mois. Voilà, c'est inquiétant de toute façon, quoi.
Et puis c'est un exemple aussi qui illustre une chose que l'on ne connaît pas, c'est que elle est chrétienne. Et on imagine souvent les migrants, les réfugiés de confession musulmane. Il y a d'autres confessions qui sont présentes. Et sa foi chrétienne lui a posé problème dans son pays d'origine.
C'est vrai que elle, c'est non seulement quelqu'un qui est chrétienne, qui se promène sans le voile, bien sûr, avec des grands cheveux longs, très, une très belle femme, qui a pris des options politiques qui étaient quand même exigeantes dans son pays, qui a pris des risques. C'est pour ça qu'elle a été menacée. Elle est divorcée, pas remariée, donc elle me disait: Ça, de toute façon, même si la guerre s'arrêtait en Syrie, je ne pourrais pas retourner dans ma famille parce que je suis un peu une paria. Et ça, c'est un peu la double peine. Je mets l'anecdote dans le livre ou dans le foyer d'hébergement où elle est avec d'autres femmes musulmanes qui lui reprochent, qui la mettent de côté, qui l'ostracisent parce qu'elle ne porte pas le voile, elle n'est pas musulmane. Donc elle se fait, même au sein, avec d'autres femmes, elle est rejetée aussi. Donc on se dit quand même, elle est très seule, quoi, finalement.
On va changer de pays, on va aller du côté de l'Érythrée avec Raël, parce que elle, dans ce qu'elle exprime, ça illustre quelque chose qui est, je pense, présent chez beaucoup de réfugiés, c'est la sensation d'être coupable, d'être toujours en vie.
Oui, tout à fait, puisque elle, effectivement, elle a eu la chance d'arriver en France et de vivre maintenant dans des bonnes conditions, on va dire. Quand elle m'a raconté son histoire, elle était bouleversée. C'est quelqu'un de très gai, de très avenant, qui est pas du tout dans la plainte. Mais là, j'ai senti un moment où elle s'est arrêtée de parler, qu'elle n'était pas bien du tout. Je ne suis pas psychologue, mais j'imagine que c'est comme les gens qui ont échappé à un accident d'avion ou autre, une catastrophe, et qui se disent mais pourquoi moi et pas les autres, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. À la fois, le soulagement, c'est normal, hein, de se dire ouf, on est arrivé, on n'a pas coulé, on n'est pas mort dans le désert, on ne s'est pas fait violer ou torturer ou Dieu sait quoi. Mais les autres, oui. Et puis certains, c'était des membres de leur famille, quoi. Et puis la culpabilité de se dire, on a été obligé de partir, mais finalement, on a laissé les autres sur place. Il y en a beaucoup qui ont encore leur famille sur place, et c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? On peut même pas les aider, on peut pas retourner les voir. Parfois, ils peuvent pas leur téléphoner. Donc il y a quand même cette culpabilité qui pèse tout le temps. Et cette difficulté, c'est très ambivalent. C'est se dire, on a envie d'être heureux, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, on a envie d'aller de l'avant, de s'intégrer, et puis en même temps, on a abandonné finalement nos proches, quoi. Donc c'est peut-être pas aussi simple que j'exprime maintenant, mais il y a beaucoup de ça quand même. Moi, je l'ai senti beaucoup. J'ai vu des personnes qui sont pas dans le livre, mais quand la guerre au Soudan a repris, des personnes qui me disaient, mais moi, ma femme est encore là-bas. Et mes enfants sont là-bas, et moi, finalement, qu'est-ce que je fais là, quoi? Je suis le papa et je ne suis même pas foutu de les protéger. Alors, ce n'est pas si simple. Quand j'ai écrit le bouquin, j'avais rendez-vous avec un monsieur soudanais que je connais bien. Quand je suis arrivée, il m'a dit, mais ma femme et mon fils, mon bébé sont là-bas, et comment je peux les faire revenir? Qu'est-ce que je fais? Et l'ambassade française au Soudan à Khartoum a fermé, donc il était complètement affolé, mais dans un état. Alors finalement, il a réussi à les faire venir, mais il était hors de question que je lui dise, bon, ben maintenant on a parlé de ça, allez, on passe à l'interview, ça suffit. Donc on n'a pas fait l'interview, on n'a parlé que de ça. C'est sûr que lui, il avait une énorme culpabilité de se dire, mais moi je suis là, est-ce que je vais même pouvoir les faire revenir? Et puis, est-ce qu'ils vont pas se faire tuer, quoi? Parce qu'ils me disaient, mais il y a des bombardements tout le temps, ils risquent leur vie, quoi.
La culpabilité d'être encore vivant, la culpabilité d'être loin de ses proches, de sa famille et de rien pouvoir faire. Et puis, il y a une autre douleur. Si on prend Rosa, qui vient du Chili, qui est là depuis longtemps, là, la culpabilité, elle est mise sur le réfugié, par ceux qui sont restés au pays, en disant, mais tu es une personne lâche puisque tu n'es pas resté là et tu nous as abandonnés avec la torture et la dictature.
Alors c'est vrai que cette personne que j'ai appelée Rosa dans le livre, je la connais depuis très très longtemps, c'est une amie proche. On a mis beaucoup beaucoup de temps, malgré le fait que je connaissais assez bien son histoire, parce qu'elle était vraiment dans un état à chaque fois, il fallait s'arrêter. Elle était vraiment limite de faire un malaise, quoi. Et quand elle m'a raconté ça, quand elle m'a dit « mais quand on retourne chez nous et que les personnes nous font des reproches, c'est insupportable, quoi, parce que elle n'est plus chez elle nulle part, finalement. Quand elle est ici, bah, elle a quand même un fort accent, même si elle parle très bien français. » Elle a un physique, on voit bien qu'elle est d'Amérique du Sud. Et en même temps, quand elle retourne au Chili, on lui dit « ah ben finalement, vous êtes des traîtres, quoi ». Donc, à quel endroit elle est vraiment bien chez elle? Et c'est pour ça que son médecin, malgré son âge, lui a dit dernièrement, et lui a dit, mais écoutez, ça serait quand même bien de vous faire aider psychologiquement, parce qu'elle a des problèmes de santé gravissimes, elle est tout le temps malade. Il lui a dit, mais vous savez, vos problèmes de santé, il y a certainement beaucoup, beaucoup de choses qui sont d'origine, pas que, bien sûr, mais d'origine psychologique. Et ça serait bien de commencer une thérapie. Elle l'a fait. Elle, c'est vrai qu'elle a une grosse souffrance, même si c'est quelqu'un qui est très agréable et qui essaye de faire des choses, d'aller de l'avant. Elle a quand même un énorme poids dans le cœur, quoi. Ouais.
Vous parlez des problèmes de santé de Rosa, mais on peut élargir cette question de la santé à tous les réfugiés, qu'elles soient de l'ordre des problématiques physiques, qui sont très différents selon les cas, selon les pays, selon le parcours qui a été fait, mais qui sont toujours touchés par une problématique psychologique que l'on peut comprendre, quitter son pays, quitter ses amis, quitter sa famille, subir des atrocités pour arriver dans un pays qu'on ne le connaît pas. Il y a là un gros travail d'accompagnement qui est nécessaire parce qu'on a des difficultés de reconnaître cette problématique de santé. On passe outre. On n'en parle pas, on ne parle pas trop de soi, on essaye d'aller de l'avant, de s'intégrer et de continuer à vivre.
Il y a quand même pas mal de problèmes de santé. Notamment, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « aujourd'hui, je ne suis pas bien en cours, je ne peux pas suivre parce que je n'ai pas dormi ». beaucoup, beaucoup de problèmes de sommeil. Bon, les problèmes de dos assez graves et puis des problèmes cognitifs. Alors, pour certains, des difficultés d'apprentissage qui étaient quand même... C'était trop compliqué, quoi. C'était très, très difficile. Quand j'ai rencontré M. Yayaoui, psychologue qui suit beaucoup justement ces personnes, il m'avait dit quelque chose de très intéressant. Il me disait souvent, les gens s'accrochent jusqu'au moment où ils ont le statut de réfugié et quand ils arrivent à avoir tout, il y a un effondrement, parce qu'ils ont tellement, tellement pris sur eux, ils veulent absolument s'en sortir. Et là, elle me disait, c'est très souvent à ce moment-là qu'on voit des personnes qui s'effondrent, que ce soit physiquement ou psychiquement, parce qu'ils sont en sécurité, mais en même temps, ils ont porté des poids tellement lourds que c'est trop difficile, quoi.
Peut-être pour terminer avec un exemple lumineux, Ahmed du Bangladesh, il est en France. Il a une activité bénévole, il est naturalisé, il est totalement intégré dans ce pays et il le fait vivre par son travail et par son activité bénévole. Il lui reste quand même une difficulté, c'est qu'il a l'impression parfois qu'on ne le croit pas.
Et c'est vrai que lui, il a eu la chance, entre guillemets, d'avoir la naturalisation très rapidement grâce à son travail pendant la Covid. Donc c'est vrai que mais il y avait cette colère, c'est vrai qu'il m'en avait jamais parlé avant et là il s'est un petit peu lâché pendant l'interview en me disant mais ça l'a mis hors de lui quand on n'a pas voulu le croire justement qu'il a demandé l'asile parce qu'il disait mais quand même quoi, moi je me suis occupée de ses bébés, c'était ma vie, je donnais tout pour eux et quand il arrivait là on l'a pris pour un imposteur et ça c'est très très difficile à accepter hein. C'est pas le seul, mais on demande tellement. C'est normal aussi que l'OFPRA ou la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, demandent des preuves et des garanties. C'est normal, ils vont pas non plus faire n'importe quoi. Mais parfois, les gens n'ont pas les preuves parce qu'on leur dit mais il faudrait donner des papiers. Mais les gens, quand ils partent, parfois, ils emportent un petit sac, ils emportent ce qu'ils peuvent, ils ne vont pas faire tranquillement leurs papiers, et ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'extrait de naissance, ils n'ont pas ce qu'il faut, et on leur dit, oui, mais ça, c'est du déclaratif, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai ? Et c'est vrai que parfois, c'est faux, mais ceux pour qui c'est vraiment, qui expliquent avec leur bonne foi ce qui leur est arrivé et qu'on mette en doute ça... Lui, ça l'a vraiment mis dans un état de colère extrêmement fort.
Et puis on peut peut-être dire qu'avec Ahmed, réfugié, on perd quelque chose en tant que pays et en tant qu'habitant, de par sa qualité, du travail qu'il a fait pendant le Covid. C'est aussi un exemple de ce que peuvent apporter toutes ces personnes qui arrivent en France.
Tout à fait, c'était aussi une de mes grandes motivations, c'était de montrer à quel point ces personnes non seulement souhaitent s'intégrer, mais s'intègrent. Le jeune Soudanais dont je parle, qui habite pas très loin d'ici, dans une petite commune, il travaille dans une entreprise de pain bio. Il est levé à 4 heures du matin tous les jours. Il travaille 6 jours sur 7. Il a des grosses responsabilités. Et il me disait, mais là où je travaille, il n'y a pratiquement que des étrangers parce que les horaires sont difficiles. Le salaire n'est pas forcément mirobolant. Et lui, il est super motivé. Il bosse. Il y a d'autres personnes qui vont en aide à la personne, à domicile, en restauration. Enfin, qui font des boulots quand même pas toujours faciles. Et puis parce que il y a le problème de la langue, il y a le problème de la reconnaissance des diplômes, mais ils veulent bosser et s'il n'y avait pas tous ces gens-là, ça serait compliqué, je pense, pour l'économie française aussi, parce que s'ils disparaissaient du jour au lendemain, on se dirait il manque des gens, quoi. Et on sait très bien que c'est ces secteurs-là où il manque le plus de personnes et que ces gens-là, pour la plupart, ils occupent ces emplois au moins dans un premier temps, le temps de pouvoir acquérir une qualification ou avoir un travail un petit peu plus mieux rémunéré, mieux qualifié, quoi. C'était aussi une de mes grandes motivations, c'était de montrer à quel point ces personnes non seulement souhaitent s'intégrer, mais s'intègrent.
Merci à Sylvie Gouval d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis chez elle pour parler de son livre « Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo, réfugié, chemin de vie » paru chez Zoner Éditions. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine littéraire.